Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un petit livre de Maïlys de Kerangal, À ce stade de la nuit, qui a été publié aux éditions Verticales en 2015. Maïlys de Kerangal, une écrivaine française, je dirais qu'on ne présente plus, qui, depuis quelques années, enchaîne les succès de librairie. Corniche Kennedy, Naissance d'un pont, Tangente vers l'Est, Réparer les vivants, qui a connu un succès phénoménal, Un monde à portée de main. Mais à cela, je voudrais ajouter des livres au format plus court, des livres de, je sais pas moi, entre 80 et 120 pages, qu'on connaît peut-être un petit peu moins. Pourtant, c'est un format que Maïlys aime beaucoup et vers lequel elle va assez souvent. Je citerai trois petits livres, petits par la taille, bien sûr. À ce stade de la nuit, qui a été publié en 2014, Un chemin de table, qui a été publié en 2016, qui raconte l'apprentissage d'un cuisinier à travers plusieurs grandes cuisines françaises. Kiruna, qui a été publié en 2019, qui nous fait connaître une grande mine de fer au nord de la Suède, que Maïlys est allée visiter. Donc, à ce stade de la nuit, je reviens, à ce stade de la nuit, un livre de 74 pages, publié en 2017. Je vous lis le premier chapitre. Une cuisine la nuit. L'unique lampe allumée crée au-dessus de la nappe un cône de lumière dorée que matérialise les particules en suspension. Une fois l'ampoule éteinte, je doute toujours de leur existence. Je suis rentrée tard et je traîne, assise de travers sur la chaise de paille, le journal étalé bien à plat sur la table et lentement feuilleté, le café du matin versé dans un mug, réchauffé au micro-ondes et lentement bu. Tout le monde dort. Je fumerai bien une cigarette. La radio diffuse à faible volume un filet sonore qui murmure dans l'espace, circule et tournoie comme le ruban de la gymnaste. Je ne réagis pas aussitôt à la voix correctement timbrée qui, inaugurant le journal après les 12 coups de minuit, bégaye la tragédie sinistre qui a eu lieu ce matin. Je perçois seulement une accélération, quelque chose s'emballe, quelque chose de fébrile. Bientôt, un nom se dépose. Lampedusa. Il résonne entre les murs, stagne, s'infiltre parmi les poussières et soudain il est là, devant moi. Étendu de tout son long, se met à durcir à mesure que les minutes passent, coulée de lave brûlante, plongée dans la mer. Je rassemble et organise l'information qui enfle sur les ondes, bientôt les sature. Je les tire en une seule phrase. Un bateau venu de Libye, chargé de plus de 500 migrants, a fait naufrage ce matin à moins de 2 km des côtes de Lampedusa. Près de 300 victimes seraient à déplorer. Il me semble maintenant que le son de la radio augmente, tandis que d'autres noms déboulent en bandes. Érythrée, Somalie, Malte, Sicile, Tunisie, Libye, Tripoli. Tandis que les nombres prolifèrent, se chevauchent, s'additionnent ou se fractionnent, tandis qu'ils comparent. 283 noyés lors d'un naufrage à l'aube de Noël en 1996, près de 3000 morts ou disparus depuis 2002, environ 350 aujourd'hui, ce 3 octobre 2013. Dans ce premier chapitre, donc, Oh, moi, je dis Maïlis de Kerangal, elle emploie le jeu. Je pense que c'est elle qui a vécu peut-être ça. Elle évoque un événement donc qui a eu lieu le 3 octobre 2013. Un bateau donc venu de Libye, chargé de plus de 500 migrants, a fait naufrage à moins de 2 km des côtes de l'île de Lampedusa et près de 300 victimes seraient à déplorer. Une image évoque le drame, coulée de lave brûlante, plongée dans la mer. Et puis, si on feuillette le livre et que l'on passe dans l'avant-dernier chapitre, Maïlis écrit « L'événement cristallise doucement, il instaure une scène qui se précise, tranchée, épouvantablement nette. » C'est donc dans ce dernier chapitre qu'elle va revivre la scène, qu'elle va la recomposer, la scène du naufrage. Entre le premier chapitre et cet avant-dernier chapitre, on verra tout à l'heure ce qu'il y a. Donc, elle revit, elle imagine en fait l'incendie, le naufrage du bateau, l'évocation des gens sur le bateau. Heure nocturne, lumière qui perle au bout des cils, fatigue extra-lucide, vitesse de la pensée. L'événement cristallise doucement, il instaure une scène qui se précise, tranchée, épouvantablement nette. J'ai distingué le sillage du rafio sur la mer, sa trace mouvante à la surface de l'eau, l'incise, blanche, puis pâle, dont la forme désignait une direction et une vitesse. J'ai vu l'embarcation, un bateau de travail badigeonné de bleu et de jaune, un calfatage sommaire, les pièces de métal piquées de rouille, les vitres brouillées de sel et de projections séchées. J'ai reconnu une cargaison humaine dans ce volume sombre, grelottant, aube sur la mer en octobre, humidité qui perle, vêtements imbibés de poisse marine, tiède et glacée. Dans cette masse indistincte enflée dans les coursives étroites, sur les ponts, dans ce compactage de corps gris où seules bougeaient les têtes, elles dodelinaient, certains dormant debout. D'autres inclinant le menton sur la poitrine, sur l'épaule consentante d'un voisin. J'ai distingué des yeux, légèrement globuleux, le blanc glaireux de l'œuf, bleuté, la pupille dilatée. Et à partir d'eux, j'ai recomposé des visages possibles, des visages aux bouches fermées. La terreur, la fatigue, l'abrutissement. J'ai écouté le bruit des moteurs, ce bourdonnement régulier mélangé à celui de la mer, fluide contre l'étrave, à celui de la radio du bord. J'ai senti l'essence des auréoles noires et scintillantes qui prismaient les couleurs de l'arc-en-ciel. Soudain, tout s'est déréglé. La rumeur s'est disloquée. Un crachotement, un étouffement. Et quelques centaines de mètres plus loin, le bateau n'avançait plus, flottait, porté par le flux de la mer, par l'inertie des eaux, il dérivait. J'ai contenu le chalutier dans mon regard jusqu'à ce que les remous s'atténuent à la poupe, se dissolvent progressivement dans le bleu de la mer, l'azur vertical, jusqu'à ce que la fin du mouvement signe la fin de tout. Une fumée, un nuage grisâtre, est monté dans le ciel comme un signal indien, un code, un langage. Et peu à peu a tout effacé, a gommé l'espace où stagnait le bateau. L'incendie a éclaté, tandis que des grains noirs commençaient à ponctuer la mer, pagaille de plouf, cri, désordre. Quand c'est lent un naufrage, c'est lent un bateau qui coule, et dans le même temps incroyablement rapide. Soudain, il passe sous la surface des eaux, comme le soleil se couche, il disparaît. C'est là toute la singularité de l'événement, sa morbidité extrême. J'ai pensé que les passagers avaient dû attendre, espérer des secours. Certains sachant que le droit de la mer impose de venir en aide aux bateaux en détresse. Quand d'autres, au contraire, avaient dû s'affoler, informer des dernières dispositions des États en lutte contre l'immigration illégale. Avertis qu'en ce qui les concerne, le droit n'existait plus. Justement, ils étaient hors la loi. Des marins venus les sauver avaient été sanctionnés par des autorités inflexibles, soucieuses de la légalité et les pieds au sec. Et sans doute que d'autres se demandaient jusqu'où on les laisserait se noyer. J'ai pensé enfin que la plupart des passagers ne devaient pas savoir nager, ayant vu la mer 2 jours auparavant pour la première fois. Certains s'en étaient sortis, c'est vrai. Plus vigoureux que d'autres, en meilleure santé, ils avaient survécu. Et ceux de l'île, isolés et pauvres eux-mêmes, les avaient recueillis. Une couverture sur les épaules, un abri, un repas. Ils avaient hébergé ces étrangers, plus pauvres que pauvres, ces êtres qui n'avaient plus rien, et ne pouvaient plus prononcer leur nom. Ils les avaient relevés, et l'humanité entière avec eux. Hospitalité. Donc, entre la première scène où elle entend la nouvelle à la radio, et l'avant-dernière scène où elle revit, elle imagine bien sûr le naufrage, entre les deux, il se passe quelque chose. C'est comme un voyage qui démarre. Maïlys va explorer le nom de Lampedusa. Elle va conduire le lecteur vers une série d'associations et d'images extrêmement évocatrices. Lampedusa, ça devient une onde sonore qui résonne pendant toute la nuit dans la tête de la narratrice. Et qu'est-ce qu'elle voit dans sa tête ? Burt Lancaster dans le rôle du prince de Salina, dans Le Guépard de Visconti. Sorti en 1963, ce film franco-italien est adapté du roman éponyme de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, publié après sa mort en 1958. Le Guépard, c'est l'histoire de la fin de l'aristocratie sicilienne, incarnée par le prince. Le prince. Ce bal, alors qu'il y a des troubles révolutionnaires garibaldiens. Ce bal qui est filmé, si vous vous rappelez, vous avez dû le voir, Le Guépard, c'est assez vieux, mais... Le bal qui est filmé comme un naufrage, le chant du cygne. Rappelez-vous, à un moment, les invités s'immobilisent pour regarder le couple Burt Lancaster et Claudia Cardinal danser. Et cet immobilisme, justement, qui présage leur mort. Donc un film assez crépusculaire autour d'un monde qui sombre, de la fin d'une société, nous dit Maïlys, corrodée par sa propre vacuité. Donc voilà l'image qu'elle a, tout de suite, Lampedusa, c'est ce film, Le Guépard, avec Burt Lancaster. Burt Lancaster qu'elle évoque aussi dans le film The Swimmer, un migrant étranger, prince émigrant, Ned Merrill, un homme qui décide de rentrer chez lui en traversant toutes les piscines privées du Connecticut. Celle-ci, dans son imaginaire, forme un fleuve qu'il baptise du nom de sa femme, Lucille. Donc, évocation de deux films, Le Guépard, Le Swimmer, autour du personnage de Burt Lancaster. Et puis après, Maëlys s'attarde sur la notion de voyage, de frontière, de paysage familier, de lecture. Elle se rappelle son voyage en train qui traversait la Sibérie. Et bien ça, c'est le livre Tangente vers l'Est. Elle nous en avait parlé de son film Tangente vers l'Est quand nous l'avions déjà reçu une fois. Emporté sur les rails à travers la taïga verticale, je découvrais au fil des jours l'existence des Songlines, celles des aborigènes australiens. Elle évoque justement, à partir de la lecture du livre, ce livre qui s'appelle « Le chant des pistes », elle évoque les Songlines, ces chants aborigènes australiens qui décrivent justement des chemins empruntés par des ancêtres et qui décrivent un moment de leur vie, exactement comme la multitude de gens, de migrants souvent, qui traversent la mer et les frontières. Donc elle fait une association d'idées entre les ancêtres aborigènes australiens et les migrants actuels. Je vais vous lire un passage, page 45. Plus tard, bercée, je me suis endormie et j'ai rêvé sur ces songlines qui résorbent l'ADN d'un clan, jouant comme des noms propres. Lignes de chant figurant un parcours terrestre, récits mythiques ou poèmes de remémoration. Ces psalmodies cartographiques décrivent une identité. Appartenir au clan, c'est connaître et transmettre le chant de l'ancêtre, c'est actualiser et léguer la mémoire d'un parcours singulier. Appartenir au clan, c'est chanter son paysage. Cette nuit-là, surexcitée, j'ai imaginé que les songlines aborigènes, une fois rassemblées, composaient une représentation quasi intégrale de l'espace australien et servaient de topo-guide à quiconque désirait le pénétrer et s'y déplacer. J'ai visualisé les parcours innombrables qui s'entrecroisaient à la surface de la Terre, ce maillage choral déployé sur tous les continents, instaurant des identités mouvantes comme des flux et un rapport au monde conçu non plus en termes de possession, mais en termes de mouvement, de déplacement, de trajectoire, autrement dit en termes d'expérience. J'ai divagué sur un champ qui décrirait, énumérerait, ramasserait toutes les songlines en une seule forme, ce champ du monde. Les derniers jours, alors que j'avais perdu tout repère, alors que le temps et l'espace autour de moi s'étaient dissous, alors que le train traversait des fleuves larges et des ponts métalliques sonores bien boulonnés, afin d'aller toucher les rives du Pacifique, j'ai vu le roman dans la songline. Il était là, tapi dans la tradition orale, pulsé dans ce mouvement, dans ce chant qui relançait la mémoire, les mythes et les dieux. Pour écrire, j'ai pensé qu'il fallait capter ce chant qui subsistait d'un temps où le livre n'existait que sous sa forme chantée. Et je me suis dit qu'il était temps d'aller chercher la femme nomade. Voilà, elle imagine donc un chant du monde qui décrirait les mouvements, les déplacements, les flux, les trajectoires des hommes. Et elle va plus loin puisque elle voit dans la songline l'origine du roman, du temps où le livre n'existait que sous sa forme chantée. Et puis elle laisse vagabonder ses pensées vers des noms insolites, des noms géographiques qui désignent des lieux. Alors elle se lance dans une étude de la toponymie, de la cartographie, autrement dit la manière dont le nom va physiquement se déposer sur un paysage. Elle parle beaucoup des îles de la Méditerranée. Et puis elle revient à sa cuisine pour écouter les détails du naufrage à la radio. Et alors c'est à la fin que le livre justement prend tout son sens, à la fin du livre. Le nom de Lampedusa du 3 octobre 2013 voudra dire désormais autre chose que le guépard. Jusqu'à maintenant, pour elle, Lampedusa, c'était le guépard. Maintenant, qu'est-ce que c'est devenu avec ce naufrage? Je vous lis le dernier chapitre qui donne tout son sens au livre. À ce stade de la nuit, le jour perce à la fenêtre et décolore le ciel dans la rue. La cuisine s'éclaire. J'ai su que Lampedusa était le nom d'une île il y a une vingtaine d'années, lors des premières arrivées de migrants dans son port et des premiers naufrages dans la zone. À l'époque, ce nom était pour moi celui de Burt Lancaster, celui d'un prince, celui d'un monde qui sombre, celui d'un écrivain, celui du mois d'août, celui d'un enfant. Il feuilletait en désordre différentes couches de sens, activait des imaginaires disparates, instaurait des scènes discontinues, des écritures qui toutes tremblaient dans l'épaisseur de son spectre. Étrangement, le toponyme insulaire n'avait encore jamais recouvert le nom de fiction qui avait fini par sédimenter en moi, ce nom de légende, ce nom de cinéma. Mais ce matin, matin du 3 octobre 2013, il s'est retourné comme un gant. Lampedusa concentrant à lui seul la honte et la révolte, le chagrin, désignant désormais un état du monde, un tout autre récit. Voilà, je ne sais plus qui c'est qui a dit. À ce stade de la nuit, c'est une culpabilité, un non-lieu, une impuissance. Je veux simplement ajouter que chaque chapitre de ce petit livre commence par « À ce stade de la nuit ». C'est l'incipit de chacun des chapitres. Chaque fois qu'on commence, à ce stade de la nuit, à ce stade de la nuit. Donc un incipit qui donne son rythme, je dirais, au texte, qui le scande. Voilà, un très beau petit livre, donc. Mais je ne sais pas pourquoi je dis petit, hein, petit par la taille, tout simplement. À ce stade de la nuit, donc, de Maïlys de Kerangal, publié aux éditions Verticales en 2015. Merci de votre attention et j'espère à bientôt.